L'ambassade d'Allemagne a rassemblé des membres de la seconde et troisième génération des descendants de survivants de la Shoah pour écouter leurs témoignages. En voici trois et on va commencer par celui d'Aviva Abelev que vous connaissez puisqu'elle anime Découverte tous les vendredis entre 11h et midi. Aviva Abelev qui témoigne en même temps que son fils Benjamin Beckmans. Et ils ont pris la parole et lu la lettre de sa tante, Benjamin en tout cas, qu'elle a jetée depuis le train qui la menait en déportation. On écoute ce témoignage.
J'ai grandi dans une famille qui a été décimée, alors forcément, autour de la table, on parlait souvent de cette question de la Shoah, des survivants, de ce qui s'est passé. Impossible d'y échapper, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la transmission de la deuxième et même troisième génération, même si inconsciemment on pense que tout va bien dans la tête, c'est pas vrai. Et en ce qui me concerne, au plus les événements s'éloignent dans le temps, au plus la violence m'en apparaît. Je ne sais pas pourquoi. On pourrait penser qu'au plus ça s'éloigne, bon, on oublie. Non, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça, en tout cas chez moi.
Donc moi, je suis né en 1974 et j'ai toujours eu l'impression de vivre dans une famille où à table, il y avait des ombres. C'était des gens qui n'étaient pas là. Et de temps en temps, on en parlait, de temps en temps, on n'en parlait pas. Mais ma grand-mère, son père et sa mère avaient été déportés. Ils n'étaient pas à table. Et donc, il manquait des gens. Du côté de mon grand-père, quatre de ses frères et sœurs avaient été déportés et ils n'étaient pas là. Et donc, on était toujours dans ces repas familiaux avec ce sentiment de vivre en négatif, de vivre avec l'absence de ce qui aurait pu faire une grande et belle famille avec de l'amour, avec de la joie, et on était perpétuellement dans ce souvenir. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché parce que on est né sur des cendres, on est né sur du verre brisé et beaucoup, beaucoup de tristesse. Et j'ai ressenti, c'est vrai, un peu naturellement, le besoin de reconstruire, de se reconstruire spirituellement. Mais aussi, très vite, comme vous le disiez, moi je suis issu d'une famille mixte, d'aller vers l'autre et de comprendre ce qui fait la diversité. Mais le message, c'est ne nous arrêtons pas aux différences. Et moi, j'ai grandi dans un monde qui était un monde probablement de ruines et de tristesse, et on a cherché à le reconstruire. Ma maman l'a fait à la radio. Moi, je le fais avec des amis au centre communautaire laïque juif. Et c'est beaucoup d'histoires individuelles. Je voudrais que tu prennes le temps de lire cette lettre de ta tante. On, pour pouvoir rendre compte de ce qu'on a perdu avec la Shoah. Elle l'a jeté par la fenêtre et ça a été retrouvé sur le long des voies de chemin de fer. Et c'est parvenu à son amoureux de l'époque. Il s'appelle Paul Ginevski, qui est devenu écrivain par la suite. C'était une jeune fille qui devait avoir 18-20 ans, donc à peu près votre âge, qui s'en allait vers un destin tragique. Et écoutez le message qu'elle nous donne.
Donc son amoureux était Paul Ginevski, qui écrit. Donc ma tante s'appelait Lily. Je fis la connaissance de Lily à Bruxelles en été 1942, 5 semaines avant qu'elle fût déportée. Elle partit pour Malines, le Drancy belge, et je demeurai longtemps dans un état dont j'ai dit ailleurs beaucoup de choses. Elle partit de Malines un jour, dans un train de déportés avec beaucoup d'autres. Elle m'écrivait une lettre, une feuille arrachée d'un cahier d'écolier plié en 8, une dizaine de lignes griffonnées au crayon. Sans doute avait-elle jeté cette lettre du train et quelqu'un l'aura ramassée et mise à la poste. Alors voici la lettre qui date du 15 août 1942, en train. Cher Paul, je pars de Malines pour une destination inconnue. Pour le moment, tout va bien à part la nourriture qui manque. Si j'arrive à te communiquer ma destination, je te prie de me faire envoyer des colis, des vêtements divers, des vêtements humains. À Malines, les vieillards, les infirmes et les malades sont pris et envoyés comme nous. En conséquence, ne te laisse pas prendre à la ruse des Allemands. Si tu reçois une convocation pour un soi-disant service de travail, ne viens pas, ni tes parents aussi vieux qu'ils soient. Je suis partie, c'est assez de nous deux. Nous nous retrouverons après les événements actuels, Paul, en écrivant à la Croix-Rouge de Genève. Le moral est bon, mais j'ai la nostalgie. Paul, je dicte cette lettre à mon frère. Devant moi, des cartes à jouer éparpillées sur une valise. Par les fenêtres, la campagne, la vie. Vive la liberté. Nous nous rattraperons, Paul. Nous nous reverrons un jour. Bien sûr, ils ne se sont jamais revus.
Ça, bien sûr, c'était Aviva Belève et son fils Benjamin Beekmans. On va écouter maintenant le témoignage de Charlotte Gutmann et de ses sœurs. Elles sont toutes les trois filles de déportés et elles racontent leurs expériences.
Bonjour tout le monde, en votre très qualité. Évidemment, nous sommes très émus d'être ici présentes. Je viens d'écrire dans mes notes des tas de sujets que je voulais transmettre dans l'ordre. Et voilà, je suis là avec mon téléphone et je ne trouve pas mes notes. Donc, je vais vous parler de mémoire et je vous remercie de votre attention. Je suis l'aînée des trois. Je suis née en 52, de parents tous deux survivants de la Shoah. Mon père survivant de les différents événements de Berlin, puisqu'il faisait partie d'une fratrie, d'une famille de Berlin, dont les arrière-grands-parents déjà étaient berlinois, donc germanine de germanique, et très impliqué dans la vie de la ville et de la communauté juive. Et du côté de ma maman, de notre maman, c'est Kiev. Kiev, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans les nouvelles. Elle avait 6 ans quand la campagne de Barbarossa a commencé en Russie. Et donc, la communauté juive de Kiev s'est inquiétée comment nous allions quitter, partir, se sauver avant qu'ils n'arrivent. Et donc, ils ont eu l'occasion de monter sur un train qui les a amenés jusqu'en Ouzbékistan où ils ont été sauvés et aidés par des musulmans. Du côté de Berlin, je voudrais dire que notre papa était le deuxième de 5 enfants. Il avait un grand frère qui s'appelait Berthold, qui était né en 1924. Et il faisait partie d'un groupe de résistants. Ça existait à Berlin depuis la fin des années 30 et ils ont été dénoncés en 42. Et tout le groupe de jeunes a été envoyé à Riga pour commencer. Et ce qui est étonnant, parce que je suis pas sûre que je vais me rappeler de le dire après, c'est que le 3 mars 45, 3 ans après, Berthold est tué à Buchenwald, où notre père devait être arrivé depuis quelques jours, mais ne sont pas croisés. C'est terrible, 3 ans de réportation. Et je suis sûre qu'il a été... Je le vois de mes yeux dans mon imaginaire et je me dis, comme il était le protecteur de la famille, et que c'est comme ça que mon père le considérait et les autres enfants aussi, il était très grand. Et j'imagine qu'après 3 ans de déportation, il a dû dire, en mars 45, à un nazi qui était dans le camp de Buchenwald, il a dû le narguer et lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites encore? La guerre est finie, l'Europe est libérée, qu'est-ce que vous insistez? Pourquoi vous vous acharnez ?» Et à mon avis, ça a été la fin de son histoire parce que c'était considéré évidemment par le nazi comme une provocation. C'est mon imaginaire et c'est peut-être la réalité. Notre papa est né en septembre 25 et il a été éjecté de son école au début de la guerre. Enfin, déjà dans les années 30. Déjà, il pouvait plus venir à l'école en tant que juif, il pouvait plus participer à l'école. Il a fait sa bar mitzvah en 1938, septembre 1938, dans l'hôpital juif de Berlin, en cachette. Ils étaient deux garçons de Berlin à faire leur bar mitzvah. Donc, c'est la communion juive que les garçons font à l'âge de 3 ans. Par après, ils ont vécu. Lui, il avait deux petites sœurs aussi. Il y avait un troisième frère. Et ils ont vécu le rétrécissement de leur liberté. Le grand-père Otto Gutmann était germanique, de Germanie, comme je vous le disais. Et lui, il était optimiste. Il ne croyait pas que les Juifs allemands étaient concernés par tout ce vacarme anti-juif et tout ça. Il dit non, non, c'est pas nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et finalement, quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Et donc, ils ont été déportés pendant la fabrication, que je vais laisser mes sœurs expliquer ce que c'était dans la stratégie nazie, la fabrication, parce que notre famille est très liée à cet événement, à tout niveau. Et donc, on a eu la place Gutmann en 2008. Et il y avait une dame qui pleurait, je me souviens, je suis allée vers elle. Et bon, les écoles ont aussi été invitées pour participer à cet événement. Et il y avait une dame qui pleurait. Et je vais vers elle et je dis, est-ce que vous avez connu la famille de mon père? Elle était en larmes et elle me dit, oui, bien sûr que je l'ai connue. Mais j'avais 15 ans, je ne savais pas tout ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui se passait. En 2009, notre papa décède. Et 2013, je reçois un coup de fil d'un étudiant du lycée voisin, de là où ils habitaient. Et l'étudiant me dit, vous êtes de la famille Gutmann, de la place Gutmann, est-ce que vous seriez d'accord de venir à Berlin parce que nous avons choisi comme projet de citoyenneté l'histoire de la famille Gutmann? Voilà, merci de votre attention. Je passe la parole à mes sœurs.
Merci.
Voilà, donc vous l'avez compris, c'était Charlotte Gutmann. Et enfin, on va écouter Julien, qui est l'unique représentant de la troisième génération Gutmann. Et il témoigne, lui, par une lettre.
Donc, mon fils s'excuse de ne pas pouvoir être présent. J'aimerais ici vous lire un texte qu'il a écrit. Donc, mesdames, messieurs, je vous prie premièrement de m'excuser pour mon absence. N'étant absolument pas un penseur de la Shoah, peu capable d'avoir un discours pratique sur ce sujet, je me concentrerai sur ma pertinence, me cantonnant aux souvenirs et impressions les plus tangibles. Mes premiers souvenirs conscients se rapportant à la question de la Shoah datent et sont liés à l'école primaire juive où j'étais inscrit. Il est fort probable que le sujet ait pu faire l'objet de conversations familiales, mais je n'en ai plus mémoire. J'ai souvenir d'un appel téléphonique à mon grand-père où j'étais émue et sans doute peu ordonnée après que l'on ait abordé le fort de Brindel à l'école. Je liais confusément la chose dans un tas concentrationnaire. Cela aurait été beaucoup demandé à l'enfant de déjà distinguer Brindel ou mon grand-père la jeune été et Auschwitz. Je me souviens étonnamment que mon grand-père était resté mutique au téléphone. Ce silence était représentatif du bon sens de mon grand-père. Un soir, toujours très jeune, je devais toujours être en primaire et ne pas avoir plus de 10 ans. Je lui demandais timidement, à la place des histoires habituelles qu'il me contait, ce qu'avait été sa vie dans les camps. Il ne me parla pas une fois de souffrance humaine, mais s'étendit sur le sort des chevaux utilisés dans une des mines des environs d'Auschwitz. Mon grand-père savait qu'il n'était pas bon de charger trop jeune des enfants, a fortiori un petit-fils de rescapé, de récits d'un drame inconcevable. Peut-être était-ce aussi une pudeur qui lui était naturelle. La compréhension de la Shoah s'est davantage pour moi fait autour qu'avec mon grand-père, dans le cadre de la communauté juive, traumatisée durablement et tâtonnant peut-être dans la recherche du meilleur équilibre entre transmission et préservation de ses enfants. Dans mon impression qui n'est peut-être que partielle, les Juifs de ma tranche d'âge pourraient se retrouver dans à la fois une conscience profonde, intime, voire indéboulonnable de la chose et un questionnement sur la manière dont elle a été abordée avec eux. Nous sommes dans une situation différente, probable, profondément sensible, mais contrairement à la deuxième génération, Nous n'avons pas perdu nos grands-parents dans la Shoah, comme ma mère et ses sœurs qui n'ont pu connaître leurs grands-parents paternels. La Shoah a certainement eu des impacts sur ma personnalité, mais il est périlleux d'en connaître le poids exact et l'étendue. Vous voyez bien que, par exemple, ma mère et mes tantes ont elles-mêmes assimilé très différemment la chose. Ce qui m'a le plus marqué dans le souvenir de mon grand-père, c'est sa douceur, d'un type que je n'ai pas recroisé depuis. Je ne sais quelle est la part de personnalité native et du fait d'avoir perdu ses deux parents, ses deux frères et ses deux sœurs, il aurait pu porter en lui une colère constante en raison de l'injustice subie, mais je n'ai jamais perçu cela. La Shoah renforce indéniablement un attachement au destin juif. Elle rend aussi sensible au récit d'exil et aux doutes identitaires liés à la terre et aux langues. Je pense que la transmission en partie trop précoce de la Shoah m'a aussi donné un sentiment de responsabilité à divers niveaux, se traduisant parfois très curieusement. Je ne m'étendrai pas longuement et n'explorerai pas ce point, mais si je peux oser à la marge une donnée cocasse, dans une soirée grave, je crois qu'une partie de mon goût de l'érudition, de la collecte d'informations, a un lien avec l'extermination. Il est certain que tous ces impacts ont aussi changé au mesure de mon avancée dans la vie. Je vous remercie de votre attention.